France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Faut-il agrandir nos aéroports ? À Beauvais, en Picardie, des associations de défense de l'environnement s'opposent au projet. Le trafic aérien ne cesse d'augmenter, mais le secteur s'est engagé à réduire ses émissions de CO2. De nouvelles rames TGV sur nos lignes, leur intérieur présenté ce matin. Livraison espérée pour l'an prochain. Le procès de l'enseignante d'Evaël devant le tribunal de Pontoise. La jeune fille de 11 ans s'était donné la mort, harcelée au collège. Son ex-professeur n'exprime aucun regret ce matin, nous y serons. Le retour de la rougeole également. Bonjour Victor Delange.
Bonjour Jérôme.
Une centaine de cas en France depuis le début de l'année.
Oui, avec des symptômes très forts, éruptions cutanées, forte fièvre et parfois des formes graves et des hospitalisations. Et pour ne rien arranger, la rougeole est extrêmement contagieuse. Je vous expliquerai surtout pourquoi elle revient en force.
A tout de suite pour vos précisions. Nous suivons également les négociations entre Ukrainiens et Américains qui se déroulent en Arabie Saoudite. Et nous nous demanderons pourquoi les Allemands veulent continuer d'acheter leurs armes aux Américains. À partir de 13h30, le retour de la maigreur sur les podiums de la mode.
Ça me complexe pas, juste ça m'influence de manger bien healthy, dans le sport aussi, mais c'est quand même de l'influence positive.
Elle influence, elle inquiète aussi car elle a des répercussions sur la santé physique et mentale de nos jeunes. On en parle avec nos invités et avec vous. Venez témoigner 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. Que faire des églises désacralisées ? Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson et Jacques Weber.
Que c'est triste Venise lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux.
Ce sera en version chantée tout à l'heure par Charles Aznavour et Julio Iglesias. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Un week-end à Madrid pour 100€ aller-retour. Voilà le type de vol que propose en cette fin d'hiver une célèbre compagnie aérienne low-cost jaune et bleue. Au départ de Beauvais, nous sommes à une centaine de kilomètres au nord de Paris. Et manifestement, les clients sont au rendez-vous. 64 000 passagers en 1996 dans cet aéroport. Plus de 6 500 000 l'an dernier. C'est le 10e aéroport du pays désormais. Et il veut encore s'agrandir. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Le nouvel exploitant de cet aéroport prévoit pour cela des travaux, mais plusieurs associations annoncent aujourd'hui un recours pour faire annuler cette concession.
Oui, c'est ce contrat de concession signé à l'automne dernier que les trois ONG attaquent au tribunal administratif d'Amiens, Sauver le Beauvaisis, l'ADERA et Notre Affaire à tous pour dénoncer la hausse à venir du bruit, de la pollution de l'air. Mais ce contrat pour 30 ans contrevient surtout aux engagements de l'État français de réduire ses émissions de carbone, estime la juriste Adeline Paradez de Notre Affaire à tous.
Au terme de la concession, le trafic de Beauvais doit atteindre 9,4 millions de passagers et 54 000 mouvements par an, soit une augmentation de 68 et 56% par rapport à 2023. Puisqu'on doit diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de façon très conséquente, c'est absolument incompatible avec une augmentation globale du trafic aérien.
De leur côté, ni la société Belova qui a obtenu ce contrat, ni les élus locaux du syndicat mixte de la L'aéroport ne s'exprime au micro. Le syndicat mixte nous assure dans un communiqué que des engagements sont pris pour préserver l'environnement. Un équilibre, je cite, que défend aussi Charles Loquet, élu divers droite au département de l'Oise, à la mairie de Beauvais et à la Chambre de commerce et d'industrie.
C'est important évidemment pour le territoire, un aéroport comme celui-ci. Cet aéroport, quand on le voit, en fait, on voit les jeunes des quartiers qui travaillent. On parle quand même de 200 millions de travaux et d'investissements. 100 millions qui ont été signés pour les entreprises locales. Ce qu'il faut, c'est quelque chose d'équilibré entre à la fois emplois locaux et respect de l'environnement.
Mais loin d'être un aéroport local, les associations dénoncent son modèle économique qui repose avant tout sur des vols low cost et des clients qui quittent ou se rendent à la capitale.
Et l'an dernier, le nombre de passagers dans le monde pour le transport aérien a augmenté de 10%. Merci Rémi Brancato. L'avion en concurrence directe avec le train sur certaines lignes. Ainsi, la semaine dernière en Espagne, la compagnie Vueling a décidé d'arrêter ses allers-retours entre Madrid et Barcelone à cause des trains à grande vitesse proposée sur le même axe. En France, la SNCF dévoilait donc ce matin l'intérieur des nouveaux TGV. Les rames devraient circuler normalement l'an prochain. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Vous avez pu visiter, vous avez assisté à la présentation ce matin. Gare de Lyon, en quoi ces rames sont-elles différentes des rames actuelles ?
Eh bien, il y a plus de 400 innovations dans ce nouveau TGVM présenté comme un bijou de technologie et des changements, notamment en deuxième classe, une prise électrique qui garantit à chaque place un meilleur Wi-Fi, un espace plus grand pour les bagages, le siège à la fois gris et bleu est bien plus confortable, à mémoire de forme. Oubliez également le bar, il s'appelle maintenant le bistrot, sur deux étages avec une mezzanine, avec table et fauteuil rouge, et au rez-de-chaussée, un libre-service avec caisse automatique et des vitrines réfrigérées comme en supermarché pour se servir parmi sandwich et plats français, sans oublier le micro-ondes et machines à café. Autre nouveauté, cet espace de 5 places pour les personnes en fauteuil roulant, avec une plateforme élévatrice et pivotante qui leur permet d'entrer toute seule dans le train. Au total, chaque TGVM pourra avoir 9 voitures contre 8 actuellement et accueillir jusqu'à 20% de passagers en plus.
Ça fait donc une voiture en plus par train, Luc, si j'ai bien suivi. Donc davantage de places, vous me voyez venir. Est-ce que ça veut dire que les prix vont baisser ?
Eh bien normalement non, en tout cas la grille tarifaire ne va pas changer, expliquait tout à l'heure Christophe Fanichet, le directeur général d'SNCF Voyageurs. On sera sur la même base avec notamment des petits prix à moins de 40 euros, c'est les premières places accessibles. En revanche, vu qu'il y a davantage de places, c'est que dans un premier temps, ces nouveaux TGV circuleront en plus des anciens. Il y aura selon la SNCF moins de pression sur les réservations et donc ça va quand même éviter une flambée des prix en période de forte demande.
Merci Luc Chemla en direct de la gare de Lyon avec les moyens techniques d'Hélène Langlois. Cette bonne nouvelle pour le secteur du bâtiment en Berne depuis des mois. Le rebond de l'activité est là, nous disent les professionnels. Les ventes de logements neufs ont fortement augmenté ces trois derniers mois alors qu'elles étaient au plus bas. Et c'est l'effet de la baisse des taux et des choix politiques selon Olivier Salleron, le président de la Fédération française du bâtiment.
On peut constater une hausse des ventes en fait de logements sur ces trois derniers mois, sur un seuil qui était historiquement bas hein, depuis 50 ans. Quand même, il faut le signaler, on a 30% de plus de ventes, ce qui évidemment est positif. C'est-à-dire que même avant le vote définitif de cette loi de finances 2025 que nous avons attendu longtemps, nos concitoyens, les Français, savaient que c'était le bon moment d'investir aussi grâce à des taux d'intérêt qui ont baissé de plus d'un point en quelques mois. Cette loi de finances 2025, il faut le dire, quand c'est favorable, commence à être favorable en tout cas à une atténuation de la baisse et sûrement une reprise par rapport à ce prêt à taux zéro par exemple qui est réalisable maintenant partout sur le territoire et sur les maisons individuelles en plus. Ça va satisfaire beaucoup de nos concitoyens pour investir dans un logement neuf.
Malgré tout, cette fédération s'attend à 50 000 destructions d'emplois cette année. Olivier Salleron répondait à Claire Chaudière. Des professionnels du bâtiment attentifs également au choix des communes en matière de logements sociaux, car plusieurs d'entre elles, on le sait, sont réticentes. Ainsi, dans les Bouches-du-Rhône, un peu moins de la moitié des communes du département ne respectent pas la loi SRU qui veut qu'elles consacrent 25% de leur parc immobilier à des logements sociaux. Cette année, ces communes récalcitrantes vont débourser près de 16 millions d'euros d'amende. Ainsi, à l'eau, près de Marseille, 7% de logements sociaux seulement, montant de la facture 1,3 million. Payer plutôt que construire, les habitants sont d'accord, Laurent Grollet.
Dans les rues très tranquilles d'Allo, peu de partisans des logements sociaux.
On est bien, pourquoi venir nous enquiquiner ?
Question de foncier pour Monique.
On le prend, il n'y a pas la place.
Il n'y a pas la place ?
Non.
Question surtout de cadre de vie à préserver, soutient Geneviève.
Exactement, hein, moi je suis née à Marseille, je suis allodienne depuis 8 ans. Mais c'est plus calme déjà. On peut discuter comme à l'ancienne, là, devant sa porte, on est tranquille. À Marseille, c'est pas possible.
Et même si Jacques n'a rien contre les logements sociaux...
Non, pourquoi ? Ça n'attire pas que les mauvaises personnes, non, les HLM ?
Il estime qu'il ne faut pas en rajouter à Allo.
S'il n'y en a pas assez, c'est qu'il ne doit pas y en avoir plus. Ben, c'est le choix, voilà. Eh ben, on va rester tranquille.
Et tant pis si le non-respect de la loi SRU coûte plus d'un million d'euros de pénalité à la ville, Jeff, patron de bar, assume.
Justement, on paye l'amende, c'est pour pas en avoir. Non, on n'en veut pas. On a un cadre de vie qui est exceptionnel, on est quand même bien ici. C'est pour pas avoir de logements sociaux, sinon on va vivre dans le 15e, tant qu'à faire. On n'en a pas, et le peu qu'on a, quand vous y allez, c'est délabré, ça ressemble à rien. Donc non, justement.
Et il faudrait 1800 logements supplémentaires à Allo pour rattraper le retard en logements sociaux.
Reportage ici Provence. Emmanuel Macron à Strasbourg ce matin. Hommage aux victimes du terrorisme en cette journée nationale d'hommage. Le chef de l'État a choisi l'Alsace 2 semaines après l'attentat au couteau de Mulhouse qui a fait 1 mort. Plus ils nous haïssent, plus ils nous grandissent, a dit le chef de l'État. Devant le tribunal judiciaire de Pontoise, la famille de la petite Evaëlle attendait sa prise de parole. Leur fillette de 11 ans s'est donnée la mort à son domicile d'Herblay en 2019 après des mois de harcèlement au collège. Et ce matin, son ex-professeur de français, qui est jugé pour harcèlement moral, a été interrogé. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous suivez ce procès pour Inter et cette enseignante n'a pas exprimé de regret.
Ça a été un choc pour ses premiers mots sur les faits qui lui sont reprochés. L'enseignante choisit de parler d'elle-même, du choc de sa première audition, puis de sa mise en examen. Mais sur le suicide d'Evaël, rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette petite fille, tente alors la présidente. On s'est retrouvé dans l'œil du cyclone, poursuit la prévenue, mère de famille sexagénaire. Pas de regret, droite dans sa pédagogie, qu'elle reconnaît exigeante, au ton un peu direct. Mais j'étais toujours dans l'échange avec les élèves. Mais que faites-vous de tous ces élèves qui racontent qu'Evaël pleurait en classe, s'étonne l'avocate de sa famille. Des parents d'élèves qui disent que vous êtes rigide, humiliante. J'ai l'impression que ça vous glisse dessus. Oui, j'ai parfois crié ou dit des choses, mais je n'ai pas humilié Evaël. Elle répète, je n'ai pas humilié Evaël. Qu'en est-il alors de cette heure de vie de classe au cours de laquelle la fillette est priée de s'expliquer sur le harcèlement dont elle se dit victime de ses camarades ? Je lui ai dit d'arrêter de pleurer, reconnaît l'enseignante, mais elle a pu s'expliquer. En rentrant chez elle ce jour-là, la collégienne confie à ses parents qu'elle a vécu la pire journée de sa vie. Avec le recul, vous referiez la même chose sans qu'hier un des juges, du même ton calme, pour ne pas dire froid, la prévenue rétorque. Je pense que la bonne méthode était de mettre les choses à plat.
Alors, je vous disais que les parents d'Evaël attendaient cette audition. La mère de la jeune fille s'est exprimée il y a quelques minutes. Elle nous explique qu'elle n'est pas surprise par cette audition.
Pour moi, elle commence à montrer son vrai visage. Et c'est jamais de sa faute. Ça peut être un collègue qui a mal compris, des enfants. C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Sauf qu'à un moment donné, quand il y a une accumulation et un faisceau d'indices, enfin, ça devient un peu difficile de tout réfuter. Enfin, voilà. Ou sinon, c'est que, oui, elle l'a dit, mais non, c'était pas tout à fait dans ce sens-là, ils ont mal interprété, c'est pas ce que je voulais dire, voilà. Je m'attendais bien et je suis même assez contente qu'elle soit fidèle à elle-même pour montrer comment elle est.
La mère d'Evaël au micro de Charlotte Piré et de Johanna Gabric qui suivent ce procès au tribunal judiciaire de Pontoise, procès qui s'achève aujourd'hui. À l'école, collège comme lycée, où de plus en plus d'infirmières et d'infirmiers scolaires s'inquiètent du physique de leurs élèves. Ils notent un retour des corps amaigris et de l'obsession du poids que l'on pensait en retrait ces dernières années. Des jeunes inspirés par ce qu'ils voient sur les podiums de la Fashion Week à Paris en ce moment. La semaine de la mode s'achève aujourd'hui. Et notre reporter William Delesseux s'est mêlé au jeune public aux abords de ces défilés.
Quartier de la Bourse au centre de Paris. Comme tous ceux qui n'ont pas reçu d'invitation, Nour, 20 ans, guette derrière les barrières l'arrivée par une des berlines, l'une des stars qui assistera à ce défilé.
Ce qui me plaît, c'est vraiment voir les célébrités parce que ça fait du bien en fait. Dès qu'on les voit, on est impressionné.
Il et elle jettent un bref regard vers ce public improvisé.
Ça me complexe pas, je suis justement fan de leur corps, de leur personne, donc en fait ça m'influence juste de manger bien healthy, ça m'influence dans ça, dans le sport aussi, mais je dirais que c'est quand même de l'influence positive.
Nour est venue ici avec sa mère, Radia, ses corps parfaits, il faut savoir les mettre à distance.
Ah oui, oui, tous les jours je lui dis qu'elle est très bien comme elle est et qu'elle n'a pas besoin de trop en faire, c'est vrai qu'elle fait beaucoup attention à ce qu'elle mange, c'est ce qu'elle vous disait, c'est très bien, hein. Mais voilà, il ne faut pas trop en faire non plus.
Gabin, 18 ans, fan de mode, voit passer sur les réseaux sociaux ses contenus avec des modèles qui se ressemblent de plus en plus souvent.
Oui, j'ai remarqué, c'est vrai. Alors, je ne trouve pas que ce soit vraiment un bon point, parce que ça laisse moins de chance à d'autres personnes qui seraient moins maigres ou à une corpulence différente. Mais peut-être ça changera à un moment donné.
Des images de corps stéréotypés, voire des injonctions, qui d'après lui visent aussi bien les femmes que les hommes.
William Delesseux, on en reparle avec nos invités, avec vous à partir de 13h30, 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Faire la paix, faire la guerre, deux rencontres internationales à l'agenda du jour. Pour la guerre, c'est à Paris, réunion des chefs d'état-major des armées européennes. Ils sont une trentaine à se demander comment aider l'Ukraine. Pour la paix, c'est en Arabie Saoudite que se déroulent les négociations à Jeddah, ville portuaire sur la mer Rouge. 28 degrés aujourd'hui, Ukrainiens et Américains autour de la table. Bonjour Christian Chéneau.
Bonjour.
On peut déjà dire, Christian, que ça se passe mieux qu'il y a 10 jours entre Trump et Zelensky.
Écoutez Jérôme, le négociateur ukrainien a qualifié ce début de rencontre de constructif. Kiev n'arrive pas les mains vides à la table des négociations. Les Ukrainiens propose une trêve dans les airs et en mer, c'est-à-dire l'arrêt des frappes de missiles et des hostilités en mer Noire. À ce stade, la mise en place d'un cessez-le-feu à terre est encore prématurée. Mais en participant à ces pourparlers, Kiev espère renouer avec les Américains et surtout ne pas être mis hors jeu diplomatiquement. En soi, la présence des négociateurs ukrainiens à Jeddah est déjà une petite victoire. Ils vont essayer de maintenir leur ligne rouge, c'est-à-dire ne pas acter les gains territoriaux territoriaux russes.
Il y a un homme très important du dispositif Trump qui est là à Jeddah, Christian, c'est l'Américain Stephen Witkoff. Est-ce que vous pouvez nous dire qui il est et pourquoi il est important?
Oui, en diplomatie, c'est un peu le couteau suisse de Donald Trump. Certes, Stephen Witkoff n'a aucune expérience en politique étrangère, mais une grande proximité avec le président américain, avec qui il joue régulièrement au golf. À 67 ans, ce magnat de l'immobilier est réputé pour son caractère rugueux, qui ne s'embarrasse pas de précautions oratoires. Dans les affaires comme en diplomatie, Witkoff est un bulldozer détestant qu'on lui résiste. Récemment, Benjamin Netanyahou en a fait l'expérience en pleine négociation sur la trêve à Gaza. Le Premier ministre israélien avait voulu reporter un entretien avec lui, prétextant le début du Shabbat. L'émissaire de Trump était alors entré dans une colère noire et avait réussi à tordre le bras de Netanyahou qu'il avait finalement reçu un samedi, jour de repos religieux.
Merci Christian Chéneau pour ces explications. La nuit dernière, en guise de préambule à cette journée de négociation, les Ukrainiens ont lancé une vaste attaque de drones sur la Russie, la plus ambitieuse depuis le début de la guerre. 91 appareils, certains ont atteint Moscou. Bilan, 3 morts, dont des civils, selon les Russes. Je reviens un instant aux chefs des armées des pays d'Europe qui se rencontrent aujourd'hui à Paris. Ils ne sont pas d'accord entre eux sur les armes qu'il faut aux Européens pour se défendre. Les Français, par exemple, plaident pour des armes fabriquées en Europe, quand les Allemands expliquent, eux, rester fidèles aux armes américaines. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. Ça peut paraître étrange, Sébastien, au moment où les Allemands ont des mots très durs contre les États-Unis.
Oui, avec notamment cet exercice d'équilibriste pour le futur chancelier Friedrich Merz, qui est pourtant un atlantiste convaincu et qui souhaite prendre ses distances vis-à-vis des États-Unis. Le chef des conservateurs plaide pour la création d'une capacité de défense européenne autonome. Pour y parvenir, il faut commencer par renforcer l'arsenal militaire de l'Allemagne. La Bundeswehr a besoin de munitions, de matériel de combat et d'armes. L'enveloppe de 100 milliards d'euros qui a été débloquée par Olaf Scholz s'est révélée au final largement insuffisante, et la promesse du chancelier de faire de la Bundeswehr la force armée la mieux équipée d'Europe n'est pour l'instant qu'un vœu pieux, mais difficile pour Friedrich Merz, tenu par les engagements de son prédécesseur d'acheter uniquement du matériel européen. Après l'invasion de l'Ukraine, le gouvernement d'Olaf Scholz a commandé de nombreux équipements militaires aux États-Unis, notamment 35 avions de combat F-35 de Lockheed Martin, préférés aux Rafales français, 60 hélicoptères chinois qui a également des systèmes de défense anti-aérienne Patriot. La résiliation de ces contrats serait coûteuse, délicate, mais pas impossible. Berlin, souvent accusé de faire cavalier seul, s'éloignerait alors encore un peu plus de Washington pour faire front commun avec le reste des pays européens.
Sébastien Baer, en direct d'Allemagne. L'économie américaine qui compte sur ses ventes d'armes, elle représente 43% du marché mondial. D'autant que les premiers choix de Donald Trump au pouvoir, la hausse des droits de douane notamment, inquiètent les patrons et les investisseurs américains. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Les derniers signaux économiques en provenance des États-Unis sont mauvais.
Oui, grande faiblesse. Fébrilité des marchés ces dernières 24 heures, lendemain de journée noire à Wall Street, l'action du pionnier des voitures électriques Tesla a chuté de plus de 15% à la bourse de New York, conséquence d'un net recul des ventes du constructeur américain dont le patron Elon Musk, vous le savez, est aussi le bras droit de Donald Trump. Eh bien, le patrimoine du milliardaire a fondu de 29 milliards de dollars en une journée du jamais vu. Mais ce plongeon boursier est loin d'être isolé. Lundi, sa forte coloration technologique. Le Nasdaq a chuté de 4%, sa pire performance depuis 2022. Les géants de la tech comme Meta, Apple, Microsoft, Amazon reculent fortement. Tous ces signes traduisent une inquiétude des investisseurs face à un risque de récession aux États-Unis. Crainte d'autant plus forte que le président américain maintient le flou sur sa politique économique, dont l'impact est forcément mondial, souligne Sylvain Bersinger, chef économiste du cabinet d'expertise Altares.
Si les choses continuent à ce rythme-là, avec cette agressivité-là, je pense qu'on peut rentrer dans un scénario de guerre commerciale mondiale, au sens où on verrait des barrières commerciales, tarifaires, non tarifaires, s'ériger entre les pays. Et on est peut-être au début d'un point de bascule en termes de mondialisation et de commerce international.
Et son intuition, je cite, « ça ne pourra pas durer comme ça sans qu'il n'y ait une grave crise économique ».
Merci Mariam El Kurdi. Le Groenland, convoité par Donald Trump pour les richesses de son sous-sol, vit une journée journée importante pour son avenir. Élection législative dans ce territoire autonome danois. 57 000 habitants, le parti Inuit au pouvoir veut avancer vers l'indépendance. Un ex-chef d'État arrêté pour crime contre l'humanité. C'est rarissime, c'est ce qui est arrivé ce matin à l'ancien président des Philippines, archipel situé au sud-est de la Chine. Rodrigo Duterte, 79 ans, recherché pour avoir ordonné des milliers d'exécutions sommaires dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Alors son successeur a accepté qu'il soit traduit devant la Cour pénale internationale et il est actuellement en détention provisoire.
Oui, alors pour l'instant c'est le procureur général des Philippines qui a la main, c'est lui qui a décidé la mise en application du mandat d'arrêt Interpol qui mentionne le chef d'inculpation de meurtre comme crime contre l'humanité. En cause donc, vous l'avez dit, la campagne anti-drogue menée par l'ancien président lors de son arrivée au pouvoir et qui avait abouti à la mort de plusieurs milliers de personnes. Selon les estimations, on parle quand même de 12 000 à 30 000 personnes tuées. Pour mémoire, à l'époque, il avait donné carte blanche aux policiers pour obtenir des résultats dans le domaine de la lutte contre la drogue. Conséquence, une politique sanglante, largement documentée d'ailleurs par la journaliste Maria Ressa, devenue prix Nobel de la paix en 2021. Son arrestation intervient cependant à un moment particulier, puisque l'ancien président et sa famille ont de nombreux projets politiques aux Philippines. Rodrigo Duterte est candidat à la mairie de Manille avec son fils Sébastien. Sa fille, actuelle vice-présidente, est déjà en course pour l'élection présidentielle de 2028 et toute la famille dispose d'un réel pouvoir d'influence dans le pays. Rodrigo Duterte, en tout cas, en a tout à fait conscience, qui est aussitôt arrêté à contester la légalité de sa détention sur les réseaux sociaux. Et puis sa fille alerte il y a quelques minutes en expliquant que son père pourrait quand même être emmené à la haie dès ce soir.
Nathanaël Charbonnier, toujours à l'étranger, l'Espagne ne manque plus d'eau, une première depuis 2021 en raison des fortes pluies de l'automne dernier mais aussi de ces derniers jours. Il n'y a plus de sécheresse dans le pays, annonce ce matin l'agence météorologique espagnole. Une centaine de cas de rougeole recensés en France depuis le début de l'année, nous dit Santé publique France, notamment en région Hauts-de-France. C'est étonnant, c'est inquiétant pour une maladie que l'on pensait disparue. Le ministère appelle donc à la vigilance. Victor Delandon, on vous retrouve. Comment expliquer ce retour ? On est vacciné contre la rougeole, c'est même obligatoire.
Ah oui, la vaccination est obligatoire depuis 2018 pour tous les enfants. Une première injection à 12 mois et une deuxième entre 16 et 18 mois. Vaccination obligatoire pour l'une des maladies les plus contagieuse au monde. Un patient infecté, tenez-vous bien, peut en contaminer 12 à 15 autres. Et si la rougeole revient, c'est d'abord parce qu'il y a des cas importés d'autres pays, comme c'est le cas ces derniers jours avec des patients qui sont revenus malades du Maroc. Deuxième raison, la vaccination qui baisse, comme l'explique Christelle Gras-Le-Gouen, professeure de pédiatrie au CHU de Nantes.
Il y avait un objectif qui avait été fixé par l'OMS en 2000, qui était d'éradiquer la rougeole. Et on y était presque, puisque en effet, avec une couverture vaccinale suffisante, comme ce virus ne vit que chez l'humain, eh bien, il y avait la perspective de s'en débarrasser. Et puis catastrophe, parce qu'en effet, la couverture vaccinale n'a pas été bonne, n'a pas été suffisante en tout cas pour limiter la circulation du virus.
Et c'est surtout pendant la crise du Covid que les autorités sanitaires ont été débordées, moins attentives à cette baisse de la vaccination contre la rougeole, un réflexe à retrouver rapidement.
Il faut que tous nos concitoyens vérifient qu'ils ont bien eu deux injections de vaccin anti-rougeole, et si jamais ils sont en contact avec un malade de la rougeole, eh bien ils ont 72 heures pour se faire vacciner.
Et se protéger contre une maladie envahissante, rappelons les symptômes, éruptions cutanées, fièvre carabinée, tout et surtout certains patients sont susceptibles de faire des formes graves de la maladie, les bébés notamment et les personnes immunodéprimées.
Merci Victor Delande, Santé publique France qui a aussi communiqué ce matin sur le bilan de la chaleur de l'été dernier. Elle a tué plus de 3700 personnes dans notre pays, dont les trois quarts âgés de 75 ans et plus. C'est l'un des joyaux normands et français. La tapisserie de Bayeux, elle date du XIe siècle et retrace entre autres la conquête de l'Angleterre par les Normands de Guillaume le Conquérant. Eh bien, on vient d'apprendre que deux bouts de cette tapisserie ont été retrouvés en Allemagne. Ces fragments ont été prélevés en 1941 par une équipe de scientifiques et d'archéologues. Ils étaient missionnés spécialement par les nazis qui s'intéressaient beaucoup à cette œuvre. Bonjour Ajra Mohammad.
Bonjour Jérôme.
Est-ce qu'on sait ce qui intéressait les nazis dans cette tapisserie ?
Eh bien d'abord, ces fragments ont été retrouvés en novembre dernier dans les archives de l'État du Schleswig-Holstein, c'est au nord de l'Allemagne. Et voilà à quoi ils ressemblent, selon Clémentine Paquier-Berthelot, chargée de la programmation documentaire au musée de Bayeux.
Là, on parle vraiment de deux tout petits fragments, uniquement de l'un, qui font entre 1 et 2 cm. Donc on est vraiment sur des tout petits éléments qui ont été pris sur le revers, à un endroit qui n'est pour l'instant pas précisément localisé. Donc c'est assez inattendu pour nous. On n'avait dans nos archives aucune information comme quoi le docteur Karl Schlabo avait réalisé ces prélèvements.
Le docteur Karl Schlabo, c'est cet archéologue allemand envoyé en pleine guerre à Bayeux avec d'autres scientifiques pour étudier cette tapisserie. Car les nazis à l'époque en fait voulaient recenser toutes les œuvres qui pouvaient selon eux corroborer leur récit autour d'une race aryenne supérieure. Écoutez Jean-Charles Stasi, il est guide conférencier en Normandie.
Le Troisième Reich était fasciné par les Vikings et les bateaux qui transportent l'armée de Guillaume le Conquérant, eh bien ce sont ni plus ni moins que des drakkars. Donc Heinrich Himmler, le grand chef des SS, qui avait un grand intérêt pour ces civilisations nordiques, a envoyé 4 scientifiques à Bayeux en juin 1941.
Et 3 ans plus tard, le même Himmler ordonne l'envoi de la tapisserie à Berlin, livraison ou plutôt spoliation stoppée en août 1944 grâce à l'insurrection de Paris. Les 2 fragments retrouvés en Allemagne il y a quelques mois seront restitués d'ici la fin de l'année à l'État français propriétaire de la tapisserie.
Merci Ajra Mohammad. Vous nous parliez de l'Angleterre. On va y rester. L'invention du foot fait évidemment partie de son histoire. Ce soir, c'est donc au pays du football que le Paris Saint-Germain va tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. À l'aller, la semaine dernière, les Parisiens avaient été très bons, mais ils avaient perdu 1-0. Pour se qualifier ce soir, il leur faudra gagner par 2 buts d'écart dans une ambiance hors du commun à Liverpool, dans le stade d'Anfield, que n'a pas oublié l'ancien défenseur du PSG, Jimmy Algerino. Il s'y était qualifié en Coupe d'Europe avec Paris en 1997.
L'ambiance est montée crescendo à 2-0 à la 80e minute. C'est là où, en fait, il y a eu comme un souffle. Enfin, j'ai eu des acouphènes sur une oreille à la fin du match, tellement que l'ambiance, à la moindre réaction, en fait, ce qui se passait sur le terrain, le public réagissait, mais à l'unisson. Quoi. Ça veut dire pas juste une tribune, mais ça veut dire tout le stade. Et quand on sait qu'il y a quasiment 61 000 personnes qui vont être dans le stade, imaginez-vous le ressenti que ça peut avoir devant le but ou le geste défensif, le public derrière. La fatigue fait qu'un joueur même expérimenté peut manquer de lucidité et, voilà, et faire la faute qui va peut-être amener un carton, un pénalty, qui sera un avantage pour l'équipe de Liverpool. Mais en tout cas, j'espère que ça ne gênera pas les joueurs parisiens. Il va falloir qu'ils soient cliniques comme l'a été Liverpool. Ça veut dire marquer sur leur temps fort et puis surtout sans avoir besoin de beaucoup d'occasions pour marquer.
Ouais, des acouphènes en raison du bruit dans un stade. Jimmy Algerino au téléphone de Clara Lecoq-Réal. 21h pour le coup d'envoi de ce match. L'un des clubs de Manchester, Manchester United, lui veut construire un nouveau stade de 100 000 places, mais toujours dans le même quartier, le quartier d'Old Trafford. Leur enceinte historique construite il y a 115 ans est devenue vieillissante. Les plans ont été dévoilés ce matin. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, Elodie Calac pour la météo. Puis à partir de 13h30, le retour de l'obsession du poids et des formes chez nos jeunes. Les infirmières scolaires le constatent et s'en alarment. Sur les podiums de mode, la maigreur est également de mise. 01 45 24 7000 pour vos questions et vos témoignages. 13h45, une semaine entre deux prisons. Nous sommes à Angers, entre la prison du centre-ville, difficile à sécuriser, puis celle qu'on veut construire en périphérie. 13h 50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, de Granville dans la Manche à Bischheim dans le Bas-Rhin, en passant par Lens dans le Pas-de-Calais, on parlera des églises désacralisées, Jérôme, et de ce qu'elles deviennent.
Et avec vous, Frédéric, un acteur.
Grand acteur, oui. Jacques Weber, qu'on peut voir actuellement dans L'Injuste au théâtre de la Renaissance. Et avec lui, c'est un duo que nous écouterons, Que c'est triste Venise, par Charles Aznavour et Julio Iglesias. Et comme ce mardi, c'est la journée du quart d'heure de lecture nationale, eh bien Jacques Weber nous lira un passage de cette chanson.
Attention légende, merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 140 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ?
FDJ. Montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
S comme S-Line, mais aussi comme surclassement. Jusqu'au 31 mars, l'iconique finition Audi S-Line, avec son style affirmé et son ambiance sportive, est offerte. A3, A5, A6, Q2, Q3, Q5, votre prochaine Audi S-Line n'attend que vous. Rendez-vous sans attendre chez votre partenaire Audi pour rouler surclassé.
Finition S-Line offerte sous forme d'avantage client pour toute souscription d'une offre en LLD dans le réseau participant. Si acceptation par Volkswagen Bank. Voir conditions sur Audi.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
À nouveau des averses.
Oui, du sud-ouest jusqu'au flanc est, on a beaucoup de nuages, quelques averses parfois accompagnées d'orages cet après-midi. L'activité se renforce nettement du Languedoc et de la Côte d'Azur vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les orages peuvent être forts avec des averses soutenues et de la grêle. Sur les Alpes et sur les Pyrénées, de la neige vers 1700 mètres. Attention aux avalanches sur le sud des Alpes. Des Charentes et du sud de la Bretagne vers le centre Val-de-Loire, la Champagne, la Lorraine. Là aussi, quelques averses, voire un coup de tonnerre, mais les éclaircies sont plutôt belles. Et puis de la pointe bretonne au nord de la Seine, on retrouve notre perturbation avec un vent de nord-est, des pluies qui épargnent quand même l'extrême nord. Les températures baissent, alors 9 à 11 degrés le long de la Manche, encore 13 à 17 ailleurs. Et puis demain, toujours des averses au menu dans une ambiance plus fraîche. On va repasser sous les normales de saison.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
La Fashion Week 2025, la semaine de la mode, si vous préférez, s'achève aujourd'hui à Paris et les images qui nous en parviennent ne laissent guère de place au doute. Sur les podiums, seuls les mannequins taille S ont le droit de citer. Les os du bassin et les clavicules saillantes sont à la mode. Fini les formes assumées il y a quelques années par le mouvement Body Positive qui présentait mettre en avant tous les corps et pas seulement les plus filiformes. Le mirage s'est dissipé et avec lui ses conséquences. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent ces modèles, les jeunes notamment, dans nos écoles, c'est le retour de la tyrannie de la minceur ou de la maigreur pour les ados, filles mais aussi garçons, et c'est nouveau. Et cela fait des dégâts sur les corps et dans les têtes. Alors on va essayer de rappeler quelques évidences avec nos invités. Alexandra Van Hout, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneuse dans la mode, experte en tendance. Vous avez fondé la plateforme Tagwalk.
Oui,
qu'est-ce que c'est que Tagwalk?
Alors pour faire très simple, c'est un moteur de recherche qui référence tous les défilés, tous les mannequins, toute la beauté pendant les Fashion Week. Donc on comprend très rapidement la donnée qui en sort et ce que ça veut dire sociologiquement.
Donc aucune tendance ne peut vous échapper.
Généralement pas. J'espère pas en tout cas.
Avec nous également Gwenaëlle Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière scolaire à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, et secrétaire générale du syndicat SNIES UNSA Éducation, dans un lycée professionnel, c'est ça Gwenaëlle Durand?
Oui, c'est bien ça, avec essentiellement des filles.
Essentiellement des filles. Je vous soumets 01 45 24 7000, évidemment, si vous voulez être avec nous, et l'application France Inter, c'est dit. Je vous soumets le témoignage de Myriam sur l'application France Inter, justement. Je suis maman de deux jeunes adolescentes. Je constate une recherche constante de la minceur. Ma fille de 13 ans fait très attention à ce qu'elle mange. Elle recherche une taille fine. Je pense que la mode avec des hauts de plus en plus courts pousse à rechercher le ventre le plus plat et la taille la plus fine. Voilà ce qu'elle nous écrit. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce témoignage de maman, Gwenaëlle Durand? Est-ce que ça correspond au comportement que vous constatez dans votre lycée?
Oui, complètement. Fini où la mode était inclusivement belle, où chaque corps avait sa place, ce temps-là est fini. Et malheureusement, on voit déjà les répercussions sur les jeunes filles, mais aussi sur les garçons, avec un autre phénomène. Mais le corps acceptable, c'est la maigreur, c'est effectivement le ventre plat et bien d'autres choses. Donc les répercussions sur leur santé mentale et physique sont graves, peuvent être très graves.
Comment vous le constatez? Voilà. Quels sont les comportements chez ces jeunes filles? Ça veut dire par exemple qu'on dissimule son corps aux autres, notamment quand on est en pension?
Alors, c'est à divers degrés. Hein, sur des plus jeunes, ça va être des moqueries, ça va être du harcèlement sur les formes, sur la grosseur éventuelle. Sur des âges un peu plus avancés, c'est la même chose, mais de façon plus habile, en mettant de côté, en stigmatisant ces jeunes. Et puis, effectivement, elles ont un mal-être très important et elles ont des troubles du comportement alimentaire. Elles peuvent, hein, avec
ça veut dire sauter des repas.
C'est-à-dire sauter des repas ou ne pas en prendre ou diminuer vraiment leur apport ou faire du sport aussi de façon excessive. Voilà, tous ces comportements qui sont des comportements type anorexie qui peut aller aussi parfois sur des comportements boulimiques. Donc c'est grave, les conséquences sur leur développement en tous les cas, sur ces jeunes.
Gwenaëlle Durand, est-ce que vous savez dater ce retournement? Est-ce qu'à un moment, ces derniers mois, ces dernières années, vous vous êtes dit « Ah là, on n'est plus du tout sur la même chose, il y a un changement ».
C'est récent, ouais. C'est récent, mais effectivement, l'apparition de ces hauts de plus en plus courts, ça fait c'est 4 ans, je dirais, juste avant le Covid.
Ouais. Avec nous également Alexandre Avanout, comment est-ce que vous analysez tout cela? Est-ce que vous avez le sentiment, comme Myriam qui nous écrit, que la mode et des hauts, nous dit-elle, de plus en plus courts, a un impact?
Écoutez, chaque saison, c'est un peu toujours la même chose. Il y a toujours des mannequins extrêmement minces et c'est plutôt une exception d'avoir quelqu'un qui fait un 38-40 sur un défilé. Donc,
là, c'est toujours la même chose, vraiment.
C'est toujours la même chose.
On a tellement parlé du body positive et du changement sur les
oui, mais ça fait
défilés,
du bien pour les réseaux
et de
sociaux.
Ces marques qui avaient pris conscience et qui allaient faire les choses différemment et qui allaient nous présenter d'autres corps. Vous les avez entendus comme nous, ces discours.
Oui, mais c'est beaucoup pour les réseaux sociaux. C'est que moi, j'ai quand même un exemple hyper concret qui, moi, me choque personnellement. C'est qu'un mannequin assez connu, ronde, qui fait un 44 a défilé pour une marque. Et j'ai demandé aux designers, après leur défilé, est-ce que ce pantalon sera accessible en boutique? Ah bah non, on l'a fait sur mesure pour elle, il ne sera pas vendu. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a les réseaux sociaux qui disent « oui, c'est super, il y a des femmes rondes », et ensuite, la réalité, c'est que ça n'existe pas en boutique du tout.
Mais pourquoi une telle marque ne commercialise pas ce 44?
Bah, y a aussi une
elle
forme...
va pas le vendre?
Non, mais pas toutes les marques. Il y a quand même des marques qui font des efforts, et des marques très connues d'ailleurs qui font des efforts. Hermès et Chanel en sont deux qui sont vraiment plutôt dans une histoire qui est plus intéressante, parce qu'au lieu d'habiller un mannequin, justement, comme dit Gwenaëlle, dans des hauts très courts, la réalité, c'est qu'une personne ronde, elle porte jamais vraiment un crop top, un haut très court et une mini-jupe. Ça n'existe pas, parce qu'elle n'est pas forcément toujours très à l'aise. En réalité, Chanel et Hermès, ce qu'ils font d'intelligence, c'est qu'ils habillent des mannequins plus ronds dans des vêtements normaux. Et ça, c'est plus intéressant comme exercice. Mais les marques, pendant la Fashion Week, elles ne le font pas. Et c'est la faute des deux parties, c'est-à-dire le designer, mais aussi les directeurs, enfin les PDG.
Mais ces marques-là, elles font défiler des mannequins avec des formes différentes?
Oui,
différentes,
oui, oui. Mais il y en a 3. Hein. C'est Givenchy, Hermès et Chanel. Donc c'est 3 grandes, mais il n'y en a que 3. 3 sur 251 marques par saison, 4 fois par an. Donc ça ne fait pas beaucoup.
Et vous datez le retournement de tendance? Non, pour vous, il n'y a jamais eu de retournement de tendance.
Il y a eu une foulitude.
Il y a eu une illusion, peut-être.
Il y a une illusion un peu cool il y a à peu près 3-4 ans, mais pour moi, ce n'est plus du tout d'actualité. Et surtout, dans la mode, c'est plus quelque chose fait pour les réseaux sociaux que quelque chose vraiment actuellement dans l'identité et l'ADN de la marque.
Gwenaëlle Durand, justement, les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans ce que vous constatez dans votre lycée?
Ah bah oui, complètement, puisque les jeunes filles s'affichent sur les réseaux avec effectivement le haut court, les tenues à la mode, donc assez courtes, et celles qui ne s'habillent pas comme ça, malheureusement, elles sont très stigmatisées, donc c'est difficile. Et ça, c'est juste ça, on le constate tous les jours sur les réseaux sociaux et dans les établissements.
Est-ce qu'il y a des challenges qui existent? Est-ce que vous constatez ça aussi?
Non, mais c'est faut s'habiller comme tout le monde. Ça l'a toujours été dans toutes les générations. Mais là, avec ces crop tops et ces tenues de plus en plus courtes, bah, celles qui n'ont pas le corps pour porter ce genre de tenue, malheureusement, elles sont stigmatisées.
Les garçons, vous nous parliez des garçons aussi, c'est-à-dire?
Alors, les garçons, c'est un phénomène assez récent. C'est l'idéal du corps, ça s'inspire du corps grec ancien, avec une musculature harmonieuse, bien dessinée, sur un corps imberbe, sans poils. Donc, on se retrouve avec des garçons qui font de la musculation dans leur chambre ou dans les salles, qui font des périodes de sèche, donc avec une réduction d'apport alimentaire, surtout de graisse, et pour pas qu'ils perdent de muscles, ils vont absorber des protéines.
En quoi est-ce que ça peut poser problème, Gwenaël, durant ces comportements?
C'est une alimentation complètement dangereuse, surtout en période de croissance d'un jeune de 10-15 ans, enfin 10-18 ans d'ailleurs. C'est vraiment à proscrire. Même la musculation, ils sont en cours de développement, c'est doit être très très encadré.
Ouais, en dehors de tout encadrement, évidemment, c'est ces pratiques que vous constatez, Gwenaël Durand. Juliette nous appelle de Paris. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Ma question est simple. Est-ce qu'on ne pourrait pas établir pour les jeunes un baromètre de la nutrition pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans l'obésité ou dans la maigreur?
Ça veut dire...
Ce sont les deux fléaux qui, à moi, me paraissent en expansion.
Mais c'est-à-dire un baromètre sur des produits qu'ils achètent, c'est ça?
Sur la façon de se nourrir, le petit déjeuner, déjeuner, dîner, les aliments nécessaires à la croissance, les tendances qui indiquent tel ou tel monde, donner un avis positif ou négatif, voilà, leur donner des conseils pour se nourrir correctement à leur âge, sans tenir compte des modes. Voilà, il y a des modes de nutrition, je ne les citerai pas, elles sont toutes connues.
Merci Juliette, merci pour votre témoignage et pour votre question que je soumets à Gwenaël Durand. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui viennent dans votre bureau?
Alors nous bien sûr on les accompagne sur l'alimentation, ça fait partie des domaines de prévention que les infirmiers d'éducation nationale gèrent. On fait des ateliers de prévention, des ateliers éducatifs sur l'alimentation. On en fait dans chaque établissement à tous les âges. Ça, parce que ça commence très jeune, le fait de bien se nourrir, ça commence dès le plus jeune âge. Donc il y a aussi tout l'accompagnement des parents aussi.
Et donc, vous les alertez, ces parents?
Bien sûr. Nous, on travaille en synergie avec les parents. De toute façon, un enfant, c'est pas lui qui se nourrit. Enfin, jeune, c'est pas lui. Ado, il faut aussi le soutien des parents pour expliquer ce qui est bien pour leur santé et ce qui peut être dangereux.
Alexandra Vanhoute, je reviens à ce qui se passe autour de la mode et des défilés. Il y a un produit, un médicament qui circule beaucoup ces derniers mois, c'est l'Ozempic, qui a été détourné finalement, parce qu'au départ il est destiné aux personnes atteintes de diabète de type 2. Il a été détourné comme coupe-faim. Est-ce que vous avez constaté une consommation presque généralisée?
Dans la mode, c'est devenu une mode. C'est-à-dire que c'est complètement... les gens l'achètent sur le marché noir et au lieu de perdre 3 kilos en faisant attention et en mangeant un peu moins, tout le monde le prend. Et donc beaucoup d'influenceurs justement sur les réseaux sociaux.
Tout le monde, ça veut dire quoi?
Beaucoup d'influenceurs, beaucoup de journalistes, c'est quand même des gens qui ont une grande visibilité. Et c'est ça qui est inquiétant.
Les mannequins aussi?
Alors les mannequins, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que les influenceurs, donc ceux qui ont beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui les suivent, le prennent. Et la problématique de ça, c'est que ça influence à être plus mince, à une vie qui est évidemment un peu inatteignable. Et donc ça, c'est compliqué parce que c'est un médicament qui est normalement avec un docteur, suivi. Et là, c'est sur le marché noir. Et c'est vrai que les gens s'en procurent, surtout les Américains, qui après reviennent en France. Donc aux États-Unis, c'est très courant.
Et ça veut dire qu'on ne peut pas assumer d'avoir 3 kilos en trop?
Non.
Faire l'effort de boire moins d'alcool ou manger mieux ou faire un peu plus de sport?
La problématique, c'est ça. C'est-à-dire que soit tu dois moins... Enfin, les deux ne sont pas vraiment assumés. Donc, le problème de l'Ozempic, c'est que ça coupe beaucoup les hormones du plaisir. Et donc, t'es très beau, mais t'es pas forcément très heureux, quoi. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans l'industrie en ce moment. Et c'est un vrai phénomène chez les influenceurs. Et ça, c'est quand même relativement compliqué.
Mais ça veut dire que pour une personnalité seule, c'est impossible de résister à ça, à cette tyrannie-là de l'image?
Entre les défilés où les mannequins sont extrêmement minces, les pièces qui ne sont pas du tout en boutique, où c'est un peu humiliant parce qu'il n'y a pas de taille, entre tous les podiums qui ont quand même des égéries qui sont plutôt du taille XS, c'est vrai, 34, c'est compliqué de résister, ouais, très compliqué.
Delphine sur l'application France Inter. Je suis maman d'adolescente de 13 ans, je me reconnais totalement dans ce que vous dites. J'ajouterais qu'en plus de la mode, les ados sont également influencés par des stars de la musique qui véhiculent ce même idéal de beauté, à commencer par les chanteurs, chanteuses de K-pop, style très populaire avec des idoles très présents sur les réseaux sociaux. Alexandra
Elle a raison, toutes ces stars de K-pop, c'est des égéries souvent pour les marques de mode, donc nous on les voit beaucoup. Et c'est vrai que c'est des filles qui ont une routine extrêmement sont chiadées, qui sont quand même très minces, qui sont pas forcément ce qu'il y a de plus sain. Et les égéries, les chanteurs et chanteuses sont de plus en plus minces. Surtout là, aux Oscars récemment, aux Golden Globes, on a vu que ces mannequins, que ces stars étaient de plus en plus maigres. Et ça, c'est l'effet, malheureusement, qui influence les jeunes.
Vous, vous avez présenté une collection avec le Bon Marché.
Oui.
Collection qui va jusqu'aux 50.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé avec cette grande enseigne parisienne ?
Oui, donc déjà, super enseigne parisienne. Allez-y. Non, ce qui est important, c'est que je voulais pas faire une collection qui soit que du plus size, parce que c'est un peu ridicule. Il fallait faire une collection où les gens se sentent à l'aise. Et je pense que les marques de nos jours, elles n'ont pas vraiment cette idée de rendre les gens à l'aise dès qu'elles rentrent en boutique. Donc le 34-50, c'était évident et en même temps, je n'en fais pas une pub. Pour moi, c'est normal. Et il faudrait que ce soit normal pour beaucoup de marques aussi un peu plus marché grand public.
Oui, et manifestement, ça n'est pas le cas. C'est
non,
ce qu'on a bien compris en discutant avec vous. Après, j'ai envie de dire que les consommateurs, ils ont aussi le pouvoir. Ils ont aussi le droit de faire leur choix et d'essayer d'influencer les...
Oui.
Les marques.
Mais bon, encore faut-il qu'il y ait la proposition en boutique, donc
exactement.
L'un avec l'autre.
Merci Alexandra Van Hout d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à Gwenaëlle Durand et merci à toutes et à tous pour vos appels. On avait encore beaucoup d'appels, mais le temps nous est compté. 13h45 sur Inter. Notre feuilleton. Nous passons cette semaine à Angers, entre deux prisons. La maison d'arrêt d'abord, dans un vieux bâtiment qui date du 19e siècle, et puis le futur établissement, annoncé à une vingtaine de kilomètres de là, mais beaucoup plus grand. Aujourd'hui, restons dans la vieille prison située en plein centre-ville et donc à portée de lancer pour des objets divers. Notre journaliste Sarah Guibaudot continue sa visite avec la directrice Paloma Casasso-Torres et la députée Nicole Dubré-Chira.
Anti-projection.
Oui, c'est
justement ça. Pour protéger notamment les cours de promenade ou le terrain de sport des envois depuis l'extérieur d'objets produits. On est dans le quartier de semi-liberté, donc les personnes qui sont affectées, ça veut dire qu'elles ont des autorisations de sortir quasi quotidiennes. Par exemple, quelqu'un qui bénéficie d'un emploi va pouvoir sortir tous les jours sur ses horaires de travail. Et par contre, quelqu'un qui est en recherche d'emploi va sortir par exemple tous les matins. Voilà, le but, c'est un retour vers le droit commun, qui soit toujours
juste
encadré, surveillé.
Juste des règles de rentrée, d'heure de rentrée et de sortie. Sinon, c'est retour en détention.
On a des personnes qui arrivent là dès le début de leur peine, alors qui a pu être aménagée parce que des toutes petites peines et des personnes juste sur les derniers mois qui vont accéder au quartier de semi-liberté. Le quartier de semi-liberté, il est beaucoup plus récent et a priori, dans le projecteur, il n'est pas appelé à fermer. Et justement, ces publics qui ont besoin de démarches quotidiennes vers l'extérieur resteraient sur ce local.
Allez, tout sous clé.
Moi, je suis sorti de détention il y a un mois et demi. Les cellules sont très vétustes. Moi, je me souviens, les murs sur les côtés, les plafonds, ça s'effrite. Il n'y a pas d'air. Celui qui dort en bas, il a quasiment la tête qui colle aux toilettes.
Et en plus, vous êtes deux ou trois par cellule ?
Il y a beaucoup de triplettes en ce moment parce qu'il y a surpopulation. Mais c'est pas vivable. Trois, déjà, à deux, il n'y a pas de place, donc à trois, c'est pas possible.
Est-ce que vous avez eu accès à des formations, à du travail ?
Liste d'attente pour la formation travail, parce qu'on est trop à demander du travail, mais il n'y a pas assez de postes pour le nombre de détenus qu'on est. Pour ma sortie, heureusement que j'avais ma famille. Là, je suis en train de chercher du travail en restauration, parce que j'ai un CAP cuisine. Du coup, j'essaie de repartir dans le droit chemin, pour ne pas revenir en détention, parce que ça fait plus de mal à la famille qu'à nous-mêmes.
Voilà.
Merci.
Allez, bonne journée.
Bonne journée.
Donc on ressort de la maison d'arrêt avec la députée Nicole Dubré-Chira.
J'ai ma voiture, on peut s'installer dans ma voiture.
C'est dans cette petite voiture que vous sillonnez la circonscription ?
Oui, exactement. On fait beaucoup de kilomètres.
Là, on vient de visiter la maison d'arrêt d'Angers. Pour vous, est-ce qu'il faut déménager cette prison ?
Alors c'est vrai que ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut la déménager avec des rebondissements successifs. Là, les conditions montrent qu'effectivement, on ne peut que solliciter quand même un établissement qui soit plus moderne pour améliorer les conditions de vie et les conditions de travail. À un moment, à Trélazé, a été retenu un lieu qui avait été mis à disposition par la mairie.
Donc c'est à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Angers.
Et en 2021, quand Dupond-Moretti est venu, il nous a posé un peu un ultimatum en disant c'est OK pour le transfert, mais ce ne sera plus un transfert à peu près à l'identique, ce sera 850 places. C'est la crainte aussi des citoyens qui habitent autour. C'est d'une part, tout le monde veut bien mettre des gens en prison, mais pas près de chez soi. Et ensuite, la taille, 850 places, c'est quand même un peu inquiétant, puisque la plupart des centres qui sont créés aujourd'hui étaient autour de 600.
Une semaine dans leur vie à la maison d'arrêt d'Angers, la suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le mardi à 13h49, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires d'église.
Oui, qui connaissent une seconde vie. Et je vous emmène, Jérôme, à Granville, dans la Manche, au cœur de la cité trône, l'ancienne église Saint-Paul. Je dis ancienne, hein, car elle date de 1898, mais aussi parce que l'édifice vétuste et dangereux a été fermé au public en 2003, puis désacralisé en 2017. Alors, son avenir a été évoqué il y a tout juste quelques semaines, lit-on dans Ouest France. Questionné sur l'hypothèse d'une démolition, le maire a clos le débat. Ce serait une absurdité écologique et financière. Et puis, les Granvillais, ils sont très attachés. Le chantier de réhabilitation doit débuter à la fin de l'année. Coût prévisionnel 6,7 millions d'euros. Objectif, faire de l'ex-lieu de culte un lieu de culture, un tiers-lieu multigénérationnel, un espace artistique.
Cet exemple n'est pas le seul. D'autres églises s'inventent une nouvelle vie.
Oui, après 55 années d'activité, l'église du Christ-Roi à Bischheim, dans le Bas-Rhin, a connu il y a 10 jours sa dernière messe. Empreinte d'émotion et de nostalgie, nous racontent les dernières nouvelles d'Alsace. D'ailleurs, c'est la première église d'Alsace désacralisée, elle sera reconvertie en équipement communal et accueillera notamment une cantine scolaire à Rouen. Deux anciennes églises vont devenir l'une cinéma et salle de concert, l'autre café-restaurant et brasserie artisanale. Objectif, sauver le lieu et profiter de son écrin pour faire déguster à plusieurs centaines de personnes, non pas du vin de messe, mais des bières produites sur place. Alors, d'autres édifices religieux ont été transformés en habitations, hôtels ou commerces. À Paris, on grimpe un mur d'escalade dans une chapelle désacralisée. À Angers, une église est devenue une boîte de nuit tendance.
Combien ça coûte ?
Eh bien, ça dépend évidemment, Jérôme, de l'édifice et de son état, mais un exemple à se tenir, dans la Meuse, la chapelle Saint-Joseph du 19e siècle a été vendue en 2021 pour 55 000 euros. Objectif de l'acheteur, la transformer en chambre d'hôte et en lieu de réception avec sauna et jacuzzi dans l'une des tours entourant le clocher. Le proprio est bricolo et les travaux sont estimés à au moins 1 million d'euros. Mais Jérôme, si vous voulez investir, sachez que l'église Saint-Édouard de Lens, dans le Pas-de-Calais, est en vente sur le Bon Coin. Je vous lis la petite annonce postée par une agence immobilière de Liévin. Église idéalement située d'environ 539 mètres carrés, offrant de multiples possibilités. Laissez libre cours à votre imagination pour ce bien très rare à la vente. Fin de citation. Alors, explication du prêtre dans la Voix du Nord. Cela fait plus d'un an qu'il n'y avait plus de messe. Elle était ouverte occasionnellement pour des funérailles et on ne la chauffait plus l'hiver. Le diocèse d'Arras a donc mis en vente l'édifice non encore désacralisé et la mairie surveillera les intentions de l'acheteur.
Combien ça coûte ?
Son prix, voilà la question, 362 500 euros.
Est-ce qu'on peut quantifier ce phénomène, Cyril ?
Alors, la Conférence des évêques de France m'a donné les derniers chiffres. Entre 1905 et 2023, un peu plus de 700 édifices ont été désacralisés ou désaffectés et ne sont donc plus dédiés au culte. 700 sur environ 45 000 églises, cathédrales ou basiliques qui appartiennent aux communes ou diocèses et qui ont une activité cultuelle. Une dizaine à une quinzaine d'églises sont mises en vente chaque année, a récemment précisé à la Croix le président de l'Office du patrimoine religieux. Par ailleurs, près de 1 700 édifices sont fermés pour problèmes sanitaires, de sécurité ou pour dépeuplement du territoire. Mais Jérôme, il y a aussi des créations. Environ 3000 depuis 1905, indique la Conférence des évêques, et 16 églises étaient en construction en 2024 à Chelles, en Seine-Maritime. La première pierre de Sainte-Bathilde, 800 places, a été posée il y a quelques jours.
Construction d'églises auxquelles nous avions consacré un feuilleton dans ce 13-14. Merci Cyril Petit de C'est la France à C'est une chanson. C'est le comédien Jacques Weber qu'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Aux côtés d'Élodie Navarre, il est actuellement à l'affiche du théâtre de la Renaissance à Paris dans L'Injuste, où il incarne celui qu'on appelait le banquier des nazis. Et c'est un duo qu'il a souhaité que l'on écoute. Que c'est triste Venise, version Charles Aznavour Et Julio Iglesias, il adore Julio Iglesias, Jacques Weber.
Qu'on le veuille ou non, c'est un type qui chante admirablement bien, quoi, qui a quelque chose dans la voix qui est unique, qui a aussi un swing que n'avaient pas d'autres gens qui ont une voix très belle mais qui n'étaient jamais dans la mesure. On en a connu des grands Français formidables là-dessus. Or, dans ce duo, il y a la rencontre de deux monstres du chant, c'est la même facilité que Frank Sinatra, enfin, c'est quelque chose d'inimaginable. Et il y a ce passage du parler-chanter en direct, c'est un peu comme les fonds de Mona Lisa, de la Joconde, c'est-à-dire on ne sait pas comment on passe d'une couleur à une autre. Alors toi, tu commences ou tu commences ? Non, non, je préfère que tu commences. Quand c'est triste, venir. Et l'autre qui prend là, la voix est d'un naturel et d'une justesse absolument extraordinaire. Et réellement, moi j'aime bien cette chanson, c'est une des très très grandes chansons d'Aznavour, c'est pas forcément celle que je préfère. Mais la façon dont ils embarquent ça, on est sur la gondole, quoi, ça rythme un peu chaud, un peu charmeur, un peu à l'italienne, un peu comme ça, bah, c'est un dolce vita.
C'est la performance qui vous séduit.
La performance qui est énorme. Ah oui, mais vraiment. Et surtout, c'est ce truc incroyable qu'il n'y a pas de différence entre le parler et le chanter.
On chante en espagnol ou en français ?
Si, si.
Le thé ?
Les deux, si.
C'était comment, c'est moi ? Je me souviens plus.
Bon, écoute, si tu commençais, ce serait pas mal.
Que c'est triste venir autant de amours. Que c'est triste venir quand on ne s'aime plus.
On dit oui, on cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus.
Que c'est triste venir. Lorsque les barcabos ne viennent souligner que des silences crèvent.
C'est en 1964 qu'est sorti ce tube de Charles Aznavour, Frédéric.
Mais ce duo avec Julio Iglesias date du début des années 80, duo pour une émission de télévision que Jacques Weber a découvert un jour sur Internet et qu'il montre à tout le monde depuis.
Là, par exemple, dans la loge, j'ai fait écouter à ma partenaire Élodie Navarre. À tout le monde, je venais écouter, regardez, c'est génial. Puis alors, je fais les deux. Et tout, je m'amuse comme un fou. Voilà, quoi.
Vous maîtrisez le mieux lequel des deux ?
Julio, c'est plus facile dans les hauteurs, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a une simplicité, même, soyons clairs, c'est un peu simpliste comme type d'émotion. Alors que Aznavour, il y a une vraie interprétation.
Chez Julio, il y a une forme de pureté aussi.
Ah bah oui, c'est cristallin, quoi, c'est nickel. C'est... Moi, vous savez, j'ai une belle voix, je sais chanter, je suis assez beau garçon quand même. Et alors, moi, je chante comme ça, je te séduis, ma chérie, et tout, et voilà. C'est triste Venise lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux et que le cœur se serre. En voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste, Venise, le soir sur la lagune quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu, tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu, pont des soupirs. Adieu, rêve perdu. C'est trop triste, Venise, au temps des amours mortes. C'est trop triste, Venise, quand on ne s'aime plus. J'ai plus qu'à faire l'Olympia, tu vois. Voilà. J'ai quand même fait une fois l'Olympia, moi.
À quelle occasion ?
C'était un spectacle seul où je disais des textes. Un lundi soir, et mon rêve avait été accompli, j'avais mon nom en grosses lettres rouges dans l'Olympia.
Faut refaire.
Oui, j'aimerais bien. Oui. Alors, j'étais fier comme Arta, bon, je me souviens de ça.
Que c'est triste Venise, Charles Aznavour, Julio Iglesias, c'était donc Frédéric, le choix de Jacques Weber.
Jacques Weber que vous pouvez retrouver actuellement au Théâtre de la Renaissance à Paris dans la pièce L'Injuste.
Et pas l'Olympia donc, mais ça reviendra.
Il y retournera.
Merci Frédéric et à demain.